Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et dès aujourd'hui, vous pouvez trouver en kiosque le hors-série du Point, comprendre le Moyen-Âge, les textes fondamentaux. Bien entendu, Franck Ferrand a feuilleté pour nous ce petit trésor de littérature médiévale. Bonjour Franck.
Bonjour Fatima, bonjour à tous. Je crois qu'en effet, le meilleur moyen de comprendre une époque, quand je dis comprendre, c'est la comprendre au sens fort, c'est de se plonger dans ces textes. Et c'est ce que nous propose une fois encore ce hors-série du Point. Vous savez, c'est dans la lignée de toute une collection. Rappelez-vous les numéros sur les Lumières, le romantisme, le sexe et les religions, la pensée noire, l'esprit anglais, etc. Eh bien, cette fois-ci, le florilège réunit de beaux fragments de la pensée médiévale. Inutile de vous dire que je me suis plongé dedans avec délectation.
Alors justement, qu'est-ce que ça vous a inspiré ?
Eh bien, parmi tous ces documents, je me suis arrêté sur un texte de Bernard de Clairvaux, Saint Bernard, extrait d'une apologie. Je vous en lis deux ou trois lignes, si vous voulez.
Oui.
Ô vanité des vanités, aussi insensées que vaines, les murs de l'église étincellent, et les pauvres sont dans le dénuement. Ses pierres sont couvertes d'or et elle laisse ses enfants nus. On charme les yeux des riches aux frais des pauvres. Les visiteurs trouvent de quoi satisfaire leur curiosité et les malheureux ne peuvent subvenir à leurs besoins. Voilà qui m'a donné très envie d'aller un peu plus loin avec ce personnage et de vous parler de ce moine devenu prédicateur et qui a fini par prêcher, dit-on, la deuxième croisade lors des cérémonies de Pâques en l'an 1146. Si vous voulez, nous allons donc nous plonger dans cette époque et nous allons partir pour Vézelay tout de suite.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Si vous connaissez Vézelay, vous n'aurez aucun mal à vous y transporter par la pensée. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, imaginez une belle colline de Bourgogne au cœur d'un paysage harmonieux dont toutes les lignes paraissent conduire vers ce sommet pas très élevé mais plein d'élévation. Au sommet se dresse une abbaye romane admirable dont l'église, la Madeleine, devenue basilique, a été souvent modifiée depuis l'époque dont je vous parle, mais déjà, en ce temps-là, c'était une construction somptueuse. Nous sommes à Pâques, de l'an de grâce 1146, et une foule innombrable, qui se compose largement de barons et de chevaliers, une foule s'est rassemblée sur le versant nord de la colline de Vézelay. Cette foule est hérissée de bannières, de Nevers, Bourbons, Coucis, Lusignan, tous les grands hommes d'armes du moment. Et puis il y a des évêques ici également, des évêques sans nombre, et même des princes de très haut parage, le comte de Toulouse en personne, le comte de Flandre, le fils du comte de Champagne, et puis le roi de France lui-même, le très pieux Louis VII, accompagné de celle qui à l'époque est encore sa femme, l'indomptable Aliénor d'Aquitaine. Alors, que font-ils tous ici en ce jour de Pâques ? Pourquoi ce très noble rassemblement sur la colline de Vézelay ? On s'est installé dehors, le temps le permet, il faut dire que l'église est encore trop petite pour contenir pareille foule. Tous sont venus écouter la voix de ce petit homme à la barbe rousse et blanche, un peu fragile d'apparence et qui, en robe de laine écrue, pauvrissime, est en train de monter sur l'estrade damassée qu'on a édifiée au chevet de l'église du pèlerinage. Cet homme, ce moine célèbre alors dans toute la chrétienté, c'est l'abbé de Clairvaux, c'est Bernard. Abbé de Clairvaux, donc cistercien, volontairement pauvre parmi les pauvres, et si humble, et si discret d'apparence. Face à lui, l'opulente assemblée de ses grands seigneurs en soie et en brocart, cousus d'or, armés jusqu'aux dents, infiniment sûrs de leur force, de leur droit, de la puissance, comment on l'a qualifié cette puissance ? De la puissance juvénile d'une civilisation qui à l'époque est en plein développement. L'Occident chrétien, à la fois riche, arrogant, en décollage, si vous me passez l'expression. N'oubliez pas que nous sommes au milieu du XIIe siècle. Les forêts en Europe occidentale reculent partout devant les pâtures devant les villes qui débordent de leurs vieux murs et se reconstruisent partout en pierre. Les châteaux forts fleurissent sur les éminences du paysage. Partout se dressent des cathédrales, des abbatiales, des collégiales, des chapelles à la gloire d'un Christ que l'on veut conquérant. Et Bernard de Clairvaux, voûté devant tout cela, pieds nus dans ses sandales. Il se racle un peu la gorge, comme je devrais le faire moi-même aujourd'hui. Et puis il prend la parole. Il évoque la Terre Sainte, là-bas, si loin pour l'époque. Il évoque Édesse profanée et le tombeau du Christ en très grand danger. Il en appelle à tous ceux qui voudraient bien contribuer à délivrer Sion, mais non pas pour leur gloire. Pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus, trois mots d'ordre retentissent par la voix désormais puissante de ce prédicateur qui possède l'art d'envoûter la foule. Trois mots, humilité, obéissance, sacrifice. Un peu comme quand Churchill, à la veille d'une guerre terrible, va promettre du sang et des larmes, vous savez. Cette foule superbe de comtes, de barons, de grands vassaux, de princes de l'Église, cette foule pleure maintenant à chaudes larmes. Déjà, l'abbé de Clairvaux se retire au milieu d'acclamations vibrantes, inexprimables, et voilà sa réputation faite, et voilà son image coulée dans le bronze pour les siècles des siècles. Saint Bernard ou l'inflexible prêcheur de la guerre sainte, Bernard de Clairvaux ou la voix fulgurante qui aura armé l'Occident chrétien contre les musulmans. Voilà notre prêcheur élevé au rang de prophète de l'Occident et à jamais enfermé dans cette image de l'envoyé du pape qui aura mis en branle l'armée croisée des grands seigneurs de France.
La communion Illumina, interprétée par le chœur des moines de l'abbaye Saint-Pierre de Solesmes.
Alors, on imagine donc Bernard de Clairvaux comme ça dans cette image d'Épinal, celle du prêcheur de la deuxième croisade. Le pire dans tout ça, c'est que si l'on en croit certains historiens très sérieux, Bernard de Clairvaux n'était même pas à Vézelay pour ses Pâques de l'an 1146. Laissez-moi citer Pierre Baudouin. C'est, nous dit-il, pour avoir écouté le maître spirituel de l'Occident lors de son fameux discours du 31 mars 1146 que les nobles auraient abandonné leur dernière réticence, tous à l'écouter, se seraient enfin décidés à partir pour la croisade. Or, ajoute l'historien, cette thèse ne s'appuie sur aucun texte du moment. Il ne reste même aucune trace de ce fameux sermon de Vézelay. Elle suscite par ailleurs bien des interrogations. Bernard de Clairvaux, alors âgé de 56 ans, n'aspire plus qu'à se retirer définitivement dans son monastère. Il en adresse la requête au pape au début de l'an 1146. Pourquoi aurait-il brusquement abandonné cette résolution au profit d'une croisade en laquelle il n'avait guère cru jusqu'à présent ? La véritable terre sainte pour lui, c'est le cloître, conclut l'historien de Vézelay. Et le fait est que, si l'on se penche d'un peu plus près sur les textes incontestables ceux-là, les textes laissés par Bernard de Clairvaux, on y constate une réelle méfiance envers la guerre sainte. Il se trouve que le rayonnement de l'abbé de Clairvaux devient immense au moment même où se développe l'ordre du Temple. Or, à trois reprises, le maître du Temple, Hugues de Pince, va solliciter de Bernard une exhortation pour ses compagnons. Le moine finit par accepter et à ce moment-là, il dicte son éloge de la nouvelle milice. Voici le fond de son message. Bernard commence par justifier le programme spirituel du temple par une réflexion sur la guerre. L'usage limité de la violence peut être légitime, dit-il. Admettons. Mais il exige une grande maîtrise. La cause juste ne suffit pas. La conversion intérieure est d'abord nécessaire. C'est qu'il est plus redoutable de donner la mort que de la recevoir. D'où la charge contre la chevalerie du siècle, que Bernard appelle la militia malititia, par colère irraisonnée, appétit de gloire fumeuse ou envie d'arrondir ses terres, entreprend des guerres où celui qui tue pêche mortellement, ou celui qui est tué périt éternellement, écrit-il. Vous voyez que c'est pas un apologue de la guerre, que l'image du prophète de Vézelay est pour le moins arrangée. Je cite par ailleurs Jean-Philippe Lecas. « C'est l'image d'un homme blessé, dit-il, déçu et angoissé qui nous émeut. À la différence de la statue de bronze, elle nous apprend sur Bernard des vérités utiles. Saint Bernard refusa d'abord tout net de s'engager. Les appels au secours du patriarche et des barons chrétiens avaient rencontré le désir secret du roi de France et voilà la vraie raison de la croisade, nous dit-il. Alors, que le pape Eugène III, qui était un cistercien, ait demandé à son père très aimé, Bernard de Clairvaux, de lancer un appel aux armes, ça je pense qu'on peut dire que c'est certain. Mais que Bernard ait pris sa mission très à cœur, voilà qu'il l'est déjà beaucoup moins. Il se trouvait peut-être à Vézelay lors du grand rassemblement de la chrétienté ce jour de Pâques 1146, mais s'il y était, c'était parmi beaucoup d'autres. Et la vérité, c'est que saint Bernard n'a sûrement pas voulu cette deuxième croisade. On sait qu'elle se révélera du reste bien médiocre dans ses effets, cette croisade. Et que s'il l'a prônée par obéissance au pape, c'est comme on prônerait un pèlerinage plus qu'une guerre. Alors certes, il ira prêcher, il va, vous savez que Bernard de Clairvaux a un retentissement, enfin ses paroles ont un retentissement immense, hein. Il va prêcher la bonne parole aux Bretons, aux Flamands, aux Anglais, aux Espagnols, aux Bavarois, aux Polonais. Au passage, il en profite pour lutter ardemment contre l'antisémitisme qui, à l'époque, sévit violemment, notamment dans toute la partie est de l'Europe. « Sentez bien, dit-il, la hideur de cette doctrine sacrilège, il parle des pogroms, hein, de l'antisémitisme, qui nourrit d'un esprit de mensonge, engendre la souffrance et l'injustice. » Plus tard, au seuil du tombeau, dans un très bel écrit intitulé « De la considération », Bernard abordera la question de cette croisade brouillonne et de son échec. « Quelle humiliation, écrit-il, pour ceux qui annonçaient la paix, pour ceux qui annonçaient le bonheur. Nous avons dit « Voici la paix » et il n'y a point eu de paix. Nous avons promis le bonheur et tout est maintenant dans le trouble. »
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Puis la vie de Bernard de Clairvaux, devenu Saint Bernard, est le sujet abordé par Franck Ferrand. On passe à la partie magazine.
Et oui, en compagnie donc de nos invités. D'abord, la rédactrice en chef de ce hors-série du Point, Catherine Goliot. Merci d'être venue. Vous avez donc, ça fait beaucoup maintenant de ces recueils de textes fondamentaux que vous proposez. C'est très utile. Je peux dire que ça constitue quasiment une bibliothèque idéale, cette série du Point. C'est très bien.
Je crois que nous arrivons au 45e ou 46e numéro et nous n'avons toujours pas épuisé. Enfin, j'espère, la liste des textes et des thèmes que nous pourrions traiter.
Et c'est la première fois que vous consacrez au Moyen-Âge ?
Au Moyen-Âge en tant que tel, oui. C'est la première fois.
C'est ça. Il me semblait que je n'avais pas vu ça passer jusqu'ici. Et puis, nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Michel Pastoureau, que les auditeurs d'Europe 1 connaissent bien, spécialiste entre tous de tout ce qui est la symbolique médiévale, notamment spécialiste des couleurs. Alors justement, à propos des couleurs, Michel Pastoureau, j'avais repéré un texte de Saint Bernard qui nous parle des couleurs. Je vous propose de le lire d'abord. Vous allez voir que c'est assez critique, évidemment. Et pour cause, il ne faut pas oublier, nous sommes en présence d'un moine cistercien, de quelqu'un qui non seulement a fait vœu de pauvreté, mais s'attaque à tout ce qui peut être les artifices ou les apparences trompeuses. Quand les yeux se sont ouverts d'admiration pour contempler les reliques des saints enchâssées dans l'or, les bourses s'ouvrent à leur tour pour laisser couler l'or. On expose la statue d'un saint ou d'une sainte et on la croit d'autant plus sainte qu'elle est plus chargée de couleurs, écrit-il. La critique est dure. En guise de candélabre, on voit de véritables arbres d'airain travaillés avec un art admirable et qui n'éblouissent pas moins par l'éclat des pierreries que par celui des cierges dont ils sont chargés. Ô vanité plus insensée que vaine, les murs de l'église sont étincelants de richesse et les pauvres sont dans le dénuement, etc. J'ai lu la fin de cette citation tout à l'heure. Michel Pastoureau, nous vivons, notamment grâce à vous et grâce à un certain nombre de grands connaisseurs du Moyen-Âge, dans cette idée d'un Moyen-Âge très coloré, notamment d'églises très colorées, d'une utilisation très forte de la couleur. Et on se rend compte que tout le monde n'était pas d'accord à cette époque avec cette utilisation.
Non, la position de Bernard est quand même une position minoritaire.
Mais excessive, on peut dire.
Excessive. C'est un grand ennemi de la couleur. Je l'ai qualifié, je ne sais plus où, de chromophobe. Il parle même de la façon dont la couleur peut rendre aveugle. C'est pour ça donc que dans les églises cisterciennes, la couleur est absente, au moins au XIIe siècle. Alors qu'à la même époque, il y a des prélats contemporains, amis de Saint Bernard, qui pensent que la couleur, c'est au contraire de la lumière et pas du tout de la matière. Donc c'est admirable. Dieu est lumière. Il faut donc mettre de la couleur partout dans l'église. C'est ce que fait, par exemple, exactement au même moment, Suger, lorsqu'il reconstruit l'église abbatiale de Saint-Denis. Il met de la couleur partout.
Oui. Donc, selon dehors.
Sur les murs, sur les vitraux, sur les sols, les objets du culte. Donc selon la définition qu'on a de la couleur, lumière ou matière, on a deux attitudes différentes.
Lorsqu'on entre dans la chapelle haute de la Sainte-Chapelle de Paris, donc un peu plus tardive,
un siècle
plus tard, on est littéralement baigné dans la couleur. Là, on peut dire que la lumière est réifiée, elle devient substance colorée.
Oui, la Sainte-Chapelle, c'est une sorte de reliquaire et un temple de la couleur, et de la couleur qui est dynamique, cinétique même. Tout se répond, le jeu du soleil sur les vitraux, la lumière tombe au sol, fait éclater tel ou tel objet, les livres liturgiques, etc. On est vraiment là dans une liturgie de la couleur qui est omniprésente. C'est quand même la position dominante jusqu'au XIIIe siècle, et puis à la fin du Moyen-Âge, ça va décliner. Mais à la veille de la réforme protestante, il y a encore beaucoup de polychromie architecturale et sculptée. C'est pour ça que les grands réformateurs protestants, eux aussi, comme Bernard, partiront en guerre contre la couleur.
Oui, finalement, à chaque fois qu'on réforme, la couleur est un peu mise en danger.
Oui, il y a une espèce de méfiance envers la couleur. Aujourd'hui,
envers toutes les formes de richesse, et parce qu'après tout, au Moyen-Âge, la couleur est une richesse.
C'est une richesse, ça coûte très très cher, surtout dans certaines gammes de couleurs.
Bien sûr. Alors Catherine Goliot, vous avez bien sûr consacré quelques pages à Bernard de Clairvaux. Parmi tous ces grands penseurs et parmi tous ces auteurs de textes fondamentaux du Moyen-Âge, est-ce qu'on peut dire qu'il se caractérise par une forme... J'allais dire d'extrémisme, je sais que je vais faire frissonner un certain nombre d'auditeurs en disant ça, mais ça n'est pas un tendre quand même, hein. Il a des idées très arrêtées, ce Saint Bernard.
Oui, mais je dirais qu'il n'est pas le seul. Ce que je trouve très intéressant dans le Moyen-Âge, justement, c'est que, alors évidemment, nous avons mis en évidence un certain nombre de penseurs absolument exceptionnels. Ce n'est pas l'esprit du Moyen-Âge, ce sont les grands penseurs du Moyen-Âge ou les grands artistes du Moyen-Âge. Mais il y a un certain nombre de personnalités réellement hors normes. Saint Anselme, donc, du Bec-et-Loing, est une très forte personnalité. On peut dire la même chose d'un Maître Eckhart, d'un Guillaume d'Ockham. Il y a à chaque fois, comme ça, des personnalités, je dirais, exceptionnelles et qui méritent que l'on revienne vers leurs textes pour les redécouvrir, justement.
Donc je me suis promené, si l'on peut dire, dans la vie de Bernard de Clairvaux, là, pour préparer l'émission. J'ai réalisé que c'était d'abord un très grand voyageur. Mais qu'est-ce qu'on bouge à cette époque ? Lui, c'est vraiment un nomade, littéralement. Il n'est jamais en place, on le voit partout.
Mais parce que le Moyen-Âge, et je pense que M. Pastoureau ne dira pas le contraire, l'Europe au Moyen-Âge, c'est une espèce de... D'abord, elle existe en tant que telle, en tant que territoire, et les moines, les clercs, passent leur temps à passer d'une abbaye à l'autre, ensuite d'une ville à l'autre. Je vous citais tout à l'heure Saint Anselme, il vient d'Italie, il se forme en Normandie, au Bec-et-Loing, il va devenir ensuite l'évêque de Canterbury. En Grande-Bretagne, de très nombreux moines qui entrent ensuite donc dans la hiérarchie viennent d'Allemagne, viennent d'Europe. C'est un monde extrêmement ouvert, où grâce au latin, qui est la lingua franca, finalement
c'est
tout le monde parle
de l'époque,
la même langue.
Hein, tout le monde
absolument,
parle cette langue, oui.
Absolument, et c'est un pays d'ouverture. Et alors là, je vais un petit peu m'éloigner de Bernard de Clairvaux et de la chrétienté proprement dite, mais ce qui est aussi très très intéressant, c'est les voyages que font les manuscrits. C'est-à-dire que c'est aussi au Moyen-Âge qu'on a redécouvert Aristote, et on a redécouvert Aristote grâce aux Arabes et grâce à l'Espagne andalouse. Et en fait, les religions, même si on se bat, oui, il y a les croisades, mais en même temps, les esprits se rencontrent, on lit les traductions des uns et des autres, et on lit les commentaires d'Averroès, par exemple, qui était un très grand philosophe musulman et qui s'est passionné pour Aristote, qui a eu des problèmes d'ailleurs en islam à cause de ses commentaires sur Aristote, mais que les chrétiens et les juifs ont récupéré et qui a permis ensuite au Moyen-Âge et à la pensée du Moyen-Âge d'avancer.
Alors, on connaît mes marottes à ce micro. Évidemment, je reviens souvent sur cette opposition entre l'école de Platon et Saint-Augustin et puis l'école d'Aristote avec Note, vous avez cité Averroès, mais surtout Saint-Thomas d'Aquin, bien sûr. Et donc, en quelque sorte, entre l'idée et la pratique, entre Platon et Aristote. C'est une sorte de double courant qui va complètement innerver la pensée médiévale. Nous y revenons en votre compagnie dans un instant.
Chérie, t'as un programme pour cet après-midi ?
Moi, non, relax.
Bon, bah, moi, j'y vais.
C'est ça, vas-y.
Ah, moi, les soldes chez Sport 2000, des soldes sur la mode, Oxbow, Roxy, Rip Curl.
Attends, ça veut dire des soldes sur le sport ? Nike, Adidas, Puma ?
La mode en solde.
Le sport en solde ? En ce moment, il y a des soldes dans votre magasin Sport 2000, voire conditions dans les magasins participants.
C'est les soldes sur la mode chez Sport 2000.
Surtout sur le sport !
La mode.
Sport 2000, le sport, mais pas que.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et tout de suite, la partie magazine qui se poursuit avec Franck Ferrand, bien entendu, et ses invités du jour, Michel Pastoureau, historien spécialiste des couleurs, des images, des emblèmes et du bestiaire médiéval, mais aussi Catherine Goliot, rédactrice en chef des hors-séries du Point.
Et le hors-série qui nous occupe aujourd'hui, qui est en kiosque depuis ce matin, je crois, donc tout ça est parfaitement bien chronométré. C'est sous-titré Référence, cette collection. C'est vrai que ce sont tous des références. Et nous avons, grâce à ces petits recueils, la chance de pouvoir accéder à une sorte de florilège des textes les plus emblématiques d'une période ou d'un état d'esprit. Comprendre le Moyen-Âge, l'avez-vous titré, Dante, Chrétien de Troyes, Thomas d'Aquin, Averroès, Abélard. On a là, alors bien sûr ce sont de courts extraits de ces textes qui parfois sont très longs, mais on a la quintessence d'une longue période. Catherine
oui,
Goujou.
Et nous avons aussi des textes, enfin nous en proposons aussi des textes qui sont des textes de poésie. Mmh. L'amour courtois, nous proposons aussi des textes de légende, la légende d'Arthur avec Perceval le Gallois, Tristan et Isolde bien sûr, qui aura une telle importance
alors,
par la suite.
Alors tous ces textes sont traduits en langue moderne, il faut préciser, évidemment, ce serait un peu compliqué, et vous avez gardé à chaque fois ce qu'il y a de plus spécifique par auteur en quelque sorte, ce qui permet de se faire une idée quand même assez intéressante de l'architecture du mental de cette longue période. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a un Moyen-Âge, Michel Pastoureau ? C'est quand même très long, le Moyen-Âge, et ce sont des époques très différentes qui sont réunies à travers ces textes.
Oui, le Moyen-Âge dure 1000 ans, donc l'historien est obligé de périodiser, au moins distinguer trois parties, un haut Moyen-Âge, un Moyen-Âge central, qui est peut-être celui qui a le plus intéressé les chercheurs, et puis un bas Moyen-Âge, qui est proche de l'époque moderne. Il faut aussi faire une géographie. Le Moyen-Âge occidental, ou la chrétienté occidentale romaine, ça va de la Scandinavie au sud de l'Espagne et du Portugal, à la Sicile. Donc, culturellement, évidemment, il y a des variables. Et puis, on peut opposer une culture savante et une culture qu'on appelait populaire autrefois, qu'on appelle ordinaire aujourd'hui. Même s'il y a quand même, et c'est ce qui frappe l'historien, une très forte unité de sensibilité et de mentalité.
J'ai appelé cette émission « Les Lumières du Moyen-Âge » pour lutter contre cette vieille habitude, cette vieille image d'un Moyen-Âge obscur et obscurantiste. Alors ça fait maintenant longtemps que, grâce notamment à l'École des Annales, on est revenu sur cette image et qu'on a montré à quel point le Moyen-Âge pouvait être lumineux. Mais tout de même, s'attache à cette longue période l'image de siècle un peu barbare.
Oui, c'est une erreur. En fait, on a parlé d'âge obscur parce que les sources étaient peu nombreuses et nos connaissances étaient obscures. Mais si on fait un bilan de l'histoire européenne, c'est certainement pas au Moyen-Âge que les populations ont été les plus malheureuses. Hein. C'est vraiment au XVIIe siècle, qui est le grand siècle noir en Europe. La misère est partout, l'espérance de vie tombe très très bas. On vit moins longtemps sous Louis XIV que sous Saint-Louis, il faut le dire.
C'était Robert Barou qui parlait d'une apogée de la civilisation occidentale au XIIIe siècle, lui disait-il. Alors c'était peut-être un peu culotté comme vision, mais c'est vrai qu'il y a quand même une grande et belle période là.
Oui, c'est un premier apogée, surtout que de l'an 1000 jusqu'au milieu du XIIIe siècle, on est dans une phase d'expansion démographique, économique, le climat va très bien, ce qui ne sera pas le cas par la suite. Donc on peut parler d'un premier apogée, oui, vers le milieu du XIIIe siècle, je suis assez d'accord avec cette expression.
Mais alors, ce qui est compliqué pour se plonger dans le Moyen-Âge, outre la relative, parce que ça, elle n'est que relative, rareté des sources et la difficulté de certains textes, évidemment, outre tout ça, c'est la différence d'état d'esprit. Le mental des gens était quand même très, très éloigné de ce qu'il est aujourd'hui.
Oui, voilà, la sensibilité, les mentalités ne sont pas les nôtres. Et l'absurdité, ce serait évidemment de juger le passé à l'aune des savoirs et des sensibilités du présent, et pire encore, des morales du présent. Ça, c'est vraiment montrer qu'on n'a rien compris à ce qu'était l'histoire.
Le Moyen-Âge observe la nature, par exemple, de très près. Vous en montrez d'ailleurs de très beaux exemples. Dans ce, j'ai là sous les yeux un album absolument magnifique qui s'appelle Bestiaire du Moyen-Âge. C'est édité par Le Seuil, avec des illustrations extraordinaires, et dans lesquelles vous entrez dans le détail de ce qu'on pouvait savoir et surtout dire des animaux réels ou légendaires au Moyen-Âge. Ça traduit d'abord un sens objectif d'une certaine observation de la nature, et en même temps, on a l'impression qu'il y a toujours une sorte de distorsion par rapport à ce qui est observé.
Oui, on sait très bien observer au Moyen-Âge. Les oiseaux, par exemple, sont très bien connus dans le monde animal. Mais on n'a pas l'idée que l'observation conduit à la vérité des êtres et des choses. Cette vérité, elle est à chercher surtout dans les noms qui désignent les êtres et les choses, d'où un écart entre le réel et le vrai. Ce sont deux notions très différentes au Moyen-Âge.
Il faut que vous explicitiez un peu ça, cet écart entre réel et vrai.
Le réel est de l'ordre de la physique, c'est ce qui se passe ici-bas, c'est ce qui vit dans le monde d'ici-bas. Le vrai, c'est de l'ordre de la métaphysique, ça se passe dans l'au-delà, c'est pas du tout la même chose. Nous, on a aujourd'hui tendance à confondre vrai, réel, juste, exact,
oui, tout ça, c'est ça pareil.
Mais pour les auteurs du Moyen-Âge, ce n'est pas du tout la même chose. Et alors, ce qu'on cherche, c'est pas tant le réel, qu'on connaît bien, c'est le vrai, c'est la vérité. Et là, c'est de l'ordre de la métaphysique.
Et cette métaphysique, elle évolue, elle aussi, effectivement, en fonction de la redécouverte d'un certain nombre de textes anciens aussi. On parlait à l'instant d'Averroès et de la redécouverte d'Aristote. L'irruption d'Aristote dans la pensée médiévale va créer quelques bouleversements.
Oui, surtout qu'on le redécouvre par étapes et par traductions successives au XIIe et XIIIe siècle. Et le savoir change presque tous les jours, pourrait-on dire, dans les milieux lettrés et scientifiques au XIIe et XIIIe siècle à cause de cette redécouverte d'Aristote. Et le grand problème va être de concilier connaissance scientifique et foi, raison et foi. Synthèse qu'opérera au XIIIe siècle saint Thomas d'Aquin.
Saint Thomas d'Aquin, c'est celui qui, en quelque sorte, va faire va mettre tout le monde d'accord et va créer la nouvelle idéologie, le nouvel état d'esprit.
Une nouvelle théologie, une nouvelle philosophie, du moins dans le monde chrétien. Et on peut dire que, pour le christianisme en tout cas, les choses n'ont pas tellement évolué depuis.
Alors vous parlez justement de ce monde chrétien, de ce christianisme. Il y a évidemment un européocentrisme dans cette histoire médiévale et même pour une grande part dans le choix des textes que vous avez fait, Catherine Goliot.
C'est exact et nous le regrettons, mais c'est
aussi
un problème.
C'est pas une critique que je fais,
c'est un constat. Une critique, mais c'est une critique que nous faisons parce que nous n'avons que 30 ou 32 textes et que j'ai beaucoup regretté parce que je pense qu'il aurait été très intéressant de travailler plus sur les textes du judaïsme. On a un seul texte sur le Zohar et alors il y a beaucoup de choses à dire. Même chose sur l'islam, où il y a énormément de penseurs très intéressants. Et nous avons aussi laissé de côté le monde orthodoxe, Byzance. Et je pense que là aussi, on aurait pu peut-être trouver des penseurs vraiment intéressants. Donc c'est vrai que c'est un Moyen-Âge très Europe de l'Ouest. Voilà. Nous avons un texte sur la Russie. Mais c'est quand même très limité, faute de place. Mais peut-être que nous pourrons revenir sur le sujet un peu plus tard.
Comprendre le Moyen-Âge, les textes fondamentaux, c'est donc ce numéro hors série du Point que vous pouvez trouver à partir d'aujourd'hui partout.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et le Moyen-Âge, sa philosophie et ses penseurs sont à l'honneur aujourd'hui pour en parler dans cette partie magazine. Michel Pastoureau, historien médiéviste, et Catherine Goliot, rédactrice en chef des hors-séries du Point, sans oublier Franck Ferrand bien entendu.
Et Norbert nous demande par internet, si le prêche de Pâques 1146 est une pure construction, comme vous l'avez démontré, alors qui a mis en place cette légende? Les méthodiques, l'école de la Troisième République, à quelle occasion, pour quel objectif? Ce serait bien long d'entrer dans tout ce détail, mais ce qu'il faut dire, c'est que cette légende, elle commence tôt, en l'occurrence, et qu'elle va directement à l'appui de cette croisade qui, il faut le dire, parce qu'on n'a pas eu le temps de parler de Louis VII et de toutes les péripéties de cette triste croisade de 1147, qui va tourner très mal et qui n'ira pas très loin, en l'occurrence, avec la perte d'Edès, etc. Donc, on a d'emblée voulu placer ce mouvement, cet événement, sous l'égide d'un grand spirituel, en l'occurrence de Bernard de Clairvaux, et on lui a sans doute donné un rôle qu'il n'a pas eu entièrement. Voilà en tout cas ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Alors, j'aimerais que nous revenions, j'étais en train de feuilleter pendant la publicité ce magnifique album, hein, ce très beau livre, ce bestiaire du Moyen-Âge, où vous nous faites une sorte de catalogue, Michel Pastoureau, des animaux, les uns après les autres. Vous évoquez ce que la littérature du Moyen-Âge et ce que l'iconographie nous permettent de dire de chacun de ces animaux.
Voilà, je les ai classés selon la façon dont on les classe au Moyen-Âge.
À l'époque, ce qui est assez bizarre.
Ce qui est assez différent de nos classifications d'aujourd'hui, puisque le savoir médiéval n'est pas le savoir du XXIe siècle.
Oui, vous nous montrez par exemple, c'est un exemple, hein, mais que les baleines et les dauphins sont considérés comme des poissons, par exemple.
Voilà, la baleine est un poisson. On ignore la notion de mammifère, hein, elle n'émergera qu'au XVIIIe siècle.
Oui,
on ne connaît pas la notion d'insecte, etc. Donc, il ne faut pas juger ou classer ces animaux du Moyen-Âge par rapport au savoir d'aujourd'hui. Ce serait absurde, bien sûr.
Et comment les classe-t-on à l'époque, alors ?
On distingue 5 catégories, les quadrupèdes, les oiseaux, les animaux qui nagent, les poissons et tous les êtres aquatiques, les serpents, un monde très large qui inclut les dragons, et puis tout ce qu'on n'a pas pu ranger dans les 4 catégories précédentes, on les appelle les vers, en général de petits animaux. Alors il y a les insectes, les petits vers. Rongeurs, les crustacés, les mollusques, ce sont les vers. D'autres classifications sont un peu étonnantes. Par exemple, les animaux domestiques, c'est pas comme pour nous. Aujourd'hui, sont domestiques les animaux dont l'homme maîtrise la reproduction. Au Moyen-Âge, sont domestiques tous ceux qui vivent dans la maison ou autour de la maison, domus en latin. Donc, bien sûr, les animaux de la ferme, le chat, le chien, mais aussi la pie, le corbeau, le renard, la souris, le rat, la belette. Tout ça, ce sont des animaux domestiques. Le renard, qui est un grand familier du poulailler, il fait partie de la maison.
Vous nous dites qu'en étant la catégorie des serpents jusqu'au dragon, on ne fait pas une césure toujours très nette entre animal réel et animal légendaire.
Oui, en tout cas, des animaux qui pour nous sont chimériques ne le sont pas au Moyen-Âge. C'est le cas du dragon, du griffon, de la licorne. Mais pour d'autres, on hésite. Par exemple, la sirène, certains auteurs se demandent mais est-ce que ça existe vraiment, la sirène, ou pas. À partir du XVIe siècle, on n'y croira plus. Oui. Le dragon, on y croira encore jusqu'en plein XVIIe siècle.
Mais oui, c'est vrai. Oui.
Et au Moyen-Âge, on n'a pas peur
certains
du loup.
Certains croient encore au monstre du Loch Ness, après tout.
On n'a pas peur du loup, par exemple, au Moyen-Âge. La peur du loup, c'est une peur de l'époque moderne. L'affaire de la bête du Gévaudan, c'est au XVIIIe siècle.
Sûr, oui.
Mais on a peur du dragon. On a peur de rencontrer le dragon dans les campagnes.
Alors, je me suis beaucoup attaché, moi, à l'étude des chapiteaux romans, dans une autre vie, j'allais dire, et notamment ceux de Bénévent l'Abbaye dans la Creuse, qui était sans doute un des plus beaux ensembles de chapiteaux romans existants. Il existe tout un bestiaire spécifique à l'art roman.
Oui, l'animal est massivement présent dans l'église, peint, sculpté, raconté. D'ailleurs, Saint Bernard s'emporte contre cette présence massive des animaux. Il y en a trop.
Contre quoi ne se sera-t-il pas emporté ?
Oui, il remarche beaucoup de griefs, Saint Bernard. Mais c'est un admirable prédicateur et latiniste. Donc, dans les églises, il y a beaucoup de représentations d'animaux. Et ces animaux sont en relation avec les bestiaires que j'ai étudiés dans ce livre, mais aussi avec le prêche, avec les sermons, avec un certain nombre d'histoires que le prêtre en chair raconte pour mieux frapper les fidèles. Les animaux, qu'ils soient issus des textes ou des images, sont là pour être support de signification.
C'est ça, il y a comme un langage du bestiaire.
Voilà, et des enseignements, soit religieux, soit moraux. Il y a les bons et les mauvais, ceux qu'il faut imiter et ceux qu'il ne faut pas imiter. Et tout cela fait partie d'une culture très répandue, évidente pour les contemporains. Pour nous, c'est plus énigmatique parfois. Et il y a des animaux exotiques qu'on connaît très bien. Le lion, par exemple, qui est présent partout dans l'église alors qu'il n'est pas indigène en Europe, fait partie de la vie quotidienne. N'importe quel paysan connaît le lion. Il le voit partout dans son église.
L'une des grandes difficultés auxquelles on se heurte lorsqu'on essaie de percer la symbolique médiévale, par exemple, c'est le code. C'est-à-dire qu'on a très peu d'éléments qui permettent de de comprendre quelles étaient les références de l'époque. C'est très difficile.
Oui, il faut distinguer une symbolique ordinaire et puis une symbolique haut de gamme, qui est le fait des grands penseurs. Mais la symbolique ordinaire procède un peu toujours de la même façon. Elle s'appuie sur des comparaisons, des équivalences un peu mécaniques. Tel animal, tel végétal, telle couleur renvoie à telle ou telle idée. C'est un bagage culturel largement partagé. Elle s'appuie sur les noms et l'étymologie des noms, avec des choses parfois qui nous font rire.
Un côté presque psychanalytique avant l'heure.
Un petit peu. Ouais. Le noyer, par exemple, qui se dit nux en latin, est rapproché du verbe qui veut dire nuire, nocere. Donc le noyer est un arbre nuisible. Il ne faut pas tailler de statue de la Vierge dans le noyer. Il ne faut pas que les racines du noyer s'avancent vers les étoiles. Table, ça va faire crever le bétail, etc.
Primauté du verbe, en quelque sorte.
Primauté du verbe, oui.
Et c'est une primauté du verbe qui ne peut qu'intéresser nos nouveaux philosophes, ça, évidemment, Catherine Goliot.
Oui, et c'est très intéressant parce que pendant très longtemps, les philosophes ne se sont pas vraiment intéressés au Moyen-Âge parce que on pensait que c'était une gnose stérile, trop compliquée, et on se moquait un petit peu des conversations des abbayes. Alors Umberto Eco a peut-être d'une certaine manière remis le Moyen-Âge à sa façon et le Moyen-Âge intellectuel au goût du jour. Mais aujourd'hui, on constate que...
Il l'a rendu populaire en tout cas.
Il l'a rendu populaire, mais il a aussi montré à quel point les discussions pouvaient être intéressantes. Et aujourd'hui, notamment, les philosophes que l'on dit analytiques s'intéressent beaucoup à toute la réflexion engagée vers le 12e, 13e siècle sur notamment ce qu'on a appelé le problème des universaux, la querelle des universaux, c'est-à-dire quel est le sens vraiment d'un mot, quel est le sens d'un concept et quel rapport entretiennent les mots et les concepts par rapport aux choses.
Vous savez, je me rappelle une conférence qu'avait donnée Jacques Le Goff à Poitiers il y a une petite trentaine d'années, et ce qui était passionnant, c'est qu'il y avait dans l'assistance des gens qui rattachaient un certain nombre des éléments dont il parlait, qui étaient directement liés au 12e siècle en l'occurrence, à un savoir populaire qui était encore actif dans le Poitou actuel. Donc je pense qu'il y a comme ça des habitudes de pensée, il y a une symbolique qui traverse les siècles. Michel Pastoreau.
Il y a une longue durée, c'est tout le problème du Moyen-Âge, il est à la fois très loin de nous, mais aussi encore proche par certains aspects. Donc, on est mal à l'aise. Quand on étudie des civilisations très très anciennes, comme l'Égypte pharaonique, on sait que c'est très loin, et au fond, les choses sont plus faciles.
Oui, voilà, on est ailleurs.
Le Moyen-Âge est à mi-chemin.
Le Moyen-Âge nous imprègne encore, quelque part.
Tout à fait, oui, dans nos traditions, dans notre vie quotidienne. Hein, nous achetons une douzaine d'œufs, et pas 10 œufs. Cette douzaine, elle est héritée de la façon de compter au Moyen-Âge.
C'est en train de se perdre un peu tout ça, je crains. Enfin bon, quoique, peut-être pas tant que ça. Mais peu à peu, ces habitudes, ces unités, ces livres, ces douzaines, etc. sont en train de disparaître. J'étais en train de chercher dans ma pile de papier ce numéro du Point qui en plus a le mérite, comme tous ses congénères, d'être relativement petit. C'est très pratique, c'est le format absolument idéal. Si vous deviez choisir un auteur parmi tous ceux que vous proposez dans ce florilège, Catherine Goliot, ce serait lequel? Quelle est votre, où va votre préférence?
Et en fait, je vais avoir l'air d'être horriblement flagorneuse, mais c'est Bernard de Clairvaux.
Ah bon, bah écoute.
Ça tombe bien.
Ah, ça n'était pas prémédité, je précise.
Ah, pas du tout, non, pas du tout, mais c'est un personnage absolument exceptionnel. Il a cette flamme, effectivement. Je suis très sensible à l'art cistercien. Et c'est quelqu'un qui m'accompagne personnellement depuis très longtemps. Voilà.
La notion de pureté.
Voilà, enfin, je travaille avec une équipe et je ne suis pas sûre que mon équipe dirait la même chose.
Comprendre le Moyen-Âge, les textes fondamentaux, donc c'est ce numéro référence du Point, avec non seulement Bernard de Clairvaux, puisque là nous avons vraiment beaucoup développé cet aspect-là, mais tous les autres grands auteurs, hein, je précise, de Maître Eckhart, alors on parle du roman de Renard, bien entendu, on évoque Saint-Benoît, on cite bien entendu Abélard, etc. Enfin, on se replonge dans toute cette période. Et puis, Michel Pastoureau, Bestiaire du Moyen-Âge, ça c'est ce magnifique album édité au Seuil, tout en couleur.
Oui, c'était bien obligatoire.
Entendu. Les éditions du Zodiac autrefois faisaient, cela dit, de très beaux livres sur le Moyen-Âge en noir et blanc. Ça faisait presque encore plus rêver, en fait.
Mais ça donnait une image du Moyen-Âge en noir et blanc.
On appelait ça l'héliogravure, c'était très beau.
Oui, la qualité était très belle.
Ouais, extraordinaire. Enfin là, la qualité est très belle aussi. Je montre pour Fatima cette
magnifique
double page sur le cheval. Regardez comme c'est beau, c'est en luminure extrêmement agrandi. Ça, ce sont les moyens de la technologie moderne mise au service de l'imaginaire médiéval. Michel Pastoureau, donc, Bestiaire du Moyen-Âge au Seuil. Merci à tous les deux d'être venus nous montrer que le Moyen-Âge n'était pas si obscur que certains ont voulu le faire croire, qu'il était plein de lumière, de couleurs, de réflexions et de rêves.